Ok, mais en tout cas, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. C'est encore un plaisir d'être avec vous en ce plein milieu d'été. Nous, on a été un peu à droite, à gauche, là déjà au mois de juillet, mais ce n'était pas encore les vacances. C'était l'université d'été, pour ceux qui le savent. C'est une formation de ministère qui s'est très bien passée. Et puis après, on a eu le mariage de notre fils la semaine dernière, qui s'est très bien passé aussi. Voilà, et donc ce matin, je voudrais vous parler de la maison du Père et du Fils. Vous avez vu le titre de ce message. Vous savez que Dieu a une maison. Et en fin de compte, on va parler un peu de cette maison. Et la maison, d'abord, c'est le lieu où tu habites. On est d'accord. Le lieu où tu habites, le lieu où tu es chez toi. Donc normalement, dans ta maison, tu es bien. Donc, une bonne nouvelle. Dieu, il est bien dans sa maison. Il n'y a pas de souci. C'est un endroit où il aime être, où il aime vivre, où il aime demeurer. Mais il n'aime pas être tout seul, Dieu. Déjà, vous avez remarqué que en Dieu, il y a trois personnes, hein, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc déjà, dès le départ, il n'y a pas de solitude en Dieu. Il n'y a pas le gars tout seul dans sa chambre, tout seul dans sa maison. Ça arrive peut-être à certains d'entre vous. Parfois, c'est un peu difficile, la solitude. Et même quand on est en couple, on peut se sentir seul. Hein. Je vous rassure. Enfin, je ne sais pas si ça vous rassure, mais c'est juste pour mettre tout le monde d'un même niveau. La solitude est une problématique intérieure avant tout. Mais Dieu n'est jamais seul, parce que déjà, il n'est pas seul en lui-même. En lui-même, il est en relation avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et c'est un mystère, hein, les trois sont un, on ne va pas parler trop de la Trinité, c'est un mystère absolument incroyable, mais il est fondamental dans notre compréhension de qui est Dieu. Dieu est révélé en trois personnes, un seul Dieu qui, en lui-même, a une relation, et en plus, pas n'importe quelle relation, une relation d'amour. Donc déjà, la première chose qu'on peut dire, et c'est un peu la clé du message, la maison de Dieu, c'est un lieu de relation. La maison de Dieu, c'est un lieu de relation. Et la maison de Dieu, c'est un lieu d'amour. C'est pour ça que Jésus nous laisse un commandement nouveau, mais pas si nouveau que ça, en fin de compte. Aimez-vous les uns les autres. Il dit ça à ses disciples, il leur dit, venez dans la maison de Dieu, et dans cette maison, aimez-vous les uns les autres. Et la maison de Dieu, parfois, on se la représente, parce qu'une maison, il y a quatre murs, un toit, des fenêtres, une porte, etc. Et puis, il y a quelques exemples de maison de Dieu dans la parole. Mais je voudrais d'abord lire un texte qui balaye un peu tous ces exemples-là, dans Actes 7, et vous allez voir. C'est assez étonnant. Acte 7, c'est le discours d'Étienne. Vous savez, Étienne qui s'est fait lapider juste après ce discours. Donc c'est un discours puissant qui a déclenché la colère des pharisiens. Et il raconte un peu l'histoire d'Israël, hein, dans son discours. Et arrivé au verset 46, hein, donc vers la fin de ce discours, il va parler de David. Et il dit, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui ait fait toutes ces choses? Donc David, il a eu une bonne idée, hein, comme souvent on a. Il a dit, on va faire une maison à l'Éternel sur la terre. Et bien sûr, il pensait à un temple. Hein. Vous savez d'ailleurs qu'en hébreu, le mot temple, le mot maison, c'est des mots qui sont interchangeables. Tabernacle, temple, maison, demeure, tente, tout ça, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire un lieu pour la présence de Dieu. Donc David, il a une bonne idée, je vais bâtir une maison, un temple, et puis c'est une réalité, il va vraiment initier la construction du temple, mais en fin de compte, c'est Salomon qui va vraiment le construire, et il y aura un grand temple à Jérusalem, hein, le premier temple à la gloire de Dieu, pour la présence de Dieu, et Dieu manifestera sa présence dans le temple. Mais là, dans le verset qu'on vient de lire, Dieu dit, mais quelle maison voulez-vous me bâtir, franchement? Le ciel, c'est mon trône, et la terre, mon marchepied, quoi. Tu peux faire toute la cathédrale que tu veux, tu peux construire un truc extraordinaire. Il y a un pasteur aux États-Unis qui avait fait une cathédrale de cristal. On a des cathédrales catholiques, orthodoxes, magnifiques, des trucs pas possibles, plus élevés que les cieux, plus grands que tout ce que vous voulez, plus jolis et plus belles que tout ce que vous voulez. Mais pour Dieu, c'est pas une maison, ça. Le ciel, c'est son trône. Donc le ciel, le monde spirituel, l'univers entier, c'est son trône. La terre, son marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous ? Toutes ces maisons-là sont faites par les hommes. Et Dieu dit, ces choses, je ne vais pas habiter dedans, c'est moi qui les ai faites. C'est vous qui les avez faites. Et moi, je n'habite que dans des choses que je fais moi-même. Dieu habite la maison qu'il fait. Je ne sais pas s'il y a des bâtisseurs de maisons au milieu de nous. Il y a des gens qui sont très doués pour se construire des maisons. Ça, c'est un truc qui me dépasse totalement. Et il y en a qui savent tout faire. Ils bâtissent leur maison. Et donc, ils la bâtissent avec les matériaux, les mieux qu'ils ont trouvés. Ils sont bien, on va dire, dans une démarche très personnelle pour avoir leur maison. Et ils la construisent. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Il va bâtir sa maison lui-même. Alors, il n'a pas renié la démarche de David et Salomon, puisqu'il est venu manifester sa gloire. Il ne renie pas nos cathédrales et nos belles salles de culte, puisqu'il y vient. Et ce matin, sa présence était parmi nous. Mais ce qui est important pour lui, ce n'est pas le lieu, c'est ceux qui sont dedans. C'est la relation. Ce n'est pas la maison en dur, c'est la maison en chair. Ce n'est pas les pierres qui sont des cailloux, des pierres physiques, mais ce sont des pierres de chair. Et c'est Pierre qui le dira, justement, Pierre qui dira, nous sommes les pierres vivantes de la maison de Dieu, du temple de Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Et nous ne sommes pas créés. C'est lui qui nous a créés. Donc il sait comment nous sommes et il nous a créés pour être des temples pour sa gloire. Et il nous a créés ensemble, l'Église, le corps de Christ, pour être sa maison. Donc tout ça, on le sait, mais ce que je voudrais vraiment mettre en avant pendant ce message ce matin, c'est la maison du Père et du Fils. Parce que dans la maison de Dieu, il y a une relation absolument essentielle qui est au cœur de cette maison. C'est la relation entre le Père et le Fils. Jésus dira, lorsqu'il sera avec ses disciples, il leur dira, « Je suis sorti de Dieu et je suis venu sur la terre. » Je suis sorti de Dieu. Vous vous rendez compte que Jésus vient du Père, mais il était dans le sein du Père. C'est un mystère aussi pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de maison pour Jésus. Jésus, sa maison, c'est Dieu. Il vit en Dieu. Et d'ailleurs, il le dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Donc en plus, c'est une maison bizarre, c'est qu'elle est l'une dans l'autre. C'est un peu comme les poupées russes, quoi. Le Père aussi est dans le Fils. Jésus est dans le Père, il sort de Dieu, mais il sort de Dieu avec le Père en lui. C'est du mystère, c'est le mystère de la Trinité. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le lieu où il demeure, le lieu où il est continuellement, est un lieu de relation continuelle entre le Père et le Fils. Entre le Père et le Fils. Ça nous parle d'une unité, une relation d'une profondeur exceptionnelle. Ça nous parle aussi d'une sécurité magnifique. C'est-à-dire que dans cette relation, Jésus est pleinement sécurisé. Dans cette relation, et on l'a chanté tout à l'heure, pour nous, mais Jésus peut le dire, je suis à l'ombre des ailes de Dieu. Je demeure à l'ombre du Très-Haut, donc le psaume 91. Jésus peut le chanter lui aussi. Parce que Jésus, lorsqu'il est sur la terre, il va affronter les pires épreuves qu'on puisse imaginer. Et l'épreuve ultime, c'est celle de la croix. Mais il est avec le Père. Il est avec le Père. Je sais que le Père est avec moi. Et jusque dans cette épreuve de la croix, je sais que le Père m'accompagne. Je suis à l'ombre du Père. Je suis sécurisé. D'ailleurs, dans Jean 13, avant de laver les pieds de ses disciples, il est dit que Jésus savait d'où il venait, qu'il venait du Père. Il savait qu'il retournait vers le Père. Et il savait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains. Donc il était en pleine sécurité, il est juste avant la croix, il est juste avant l'épreuve ultime, mais il sait d'où il vient de la maison du Père, il sait qu'il y retourne. Il y a la croix au milieu, mais ça ne s'arrête pas à la croix. Après la croix, il y a la résurrection, l'ascension, le retour dans la maison du Père. Et ça, c'est la sécurité de Jésus. Il sait d'où il vient, il sait où il va, et il sait que le Père lui a remis une mission, lui a donné une mission. Et cette mission, c'est de donner sa vie pour l'humanité. Il y a une histoire incroyable dans la parole de Dieu qui parle aussi d'une maison, qui parle plutôt d'une tente. Alors vous allez tous me dire, c'est le tabernacle de Moïse. Mais je vais vous parler d'une tente qui est un peu particulière. C'est aussi avec Moïse, mais c'est avant le tabernacle. On va aller ensemble dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. Vous savez que le livre de l'Exode, c'est l'histoire d'Israël qui sort d'Égypte, libéré par Dieu, sous la direction de Moïse, et ils vont au désert. Et ils vont au désert pour servir Dieu, et Dieu les attend devant ce mont Sinaï, où il va se passer plein de choses. Et donc là, dans le chapitre 33 de l'Exode, on est justement dans ce lieu, au mont Sinaï, où Moïse va monter sur la montagne de Dieu pour recevoir les commandements, pour recevoir les plans du tabernacle et pour avoir toutes les instructions de Dieu pour le fonctionnement du peuple d'Israël dans tous les domaines de la vie du peuple. Donc c'est la création du peuple d'Israël en tant que nation. Donc tout ça se fait entre Moïse et Dieu sur le mont Sinaï. Mais ce qui est étonnant, vous connaissez l'histoire, c'est que Moïse va monter deux fois sur la montagne. Il va monter une première fois 40 jours et 40 nuits, et il va recevoir les tablettes de la loi, etc., et toutes les instructions. Mais quand il va descendre, le peuple d'Israël sera tombé dans l'idolâtrie du veau d'or. Je vous raconte juste l'histoire pour qu'on soit dans le contexte. Donc Moïse va casser, il va briser les tables de la loi, et il va intercéder pour le peuple. Il est en colère, Dieu est encore plus en colère que lui. Donc il y a tout un passage là qui est important. Et Moïse va repartir une deuxième fois. Dieu va lui dire, tu remontes une deuxième fois. Il reste à nouveau 40 jours et 40 nuits. Et là, il reçoit à nouveau les 10 commandements, mais aussi toutes les instructions sur le tabernacle. Et dans Exode 33, on est exactement entre les deux montées de Moïse, entre la première montée et la deuxième montée. Donc il n'est pas encore question du tabernacle. Mais par contre, il est question de la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Il y a déjà une tente où Dieu parle avec Moïse, où Moïse rencontre Dieu, mais il n'y a pas encore les sacrifices, il n'y a pas encore le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, il n'y a pas encore toutes les dimensions précises du tabernacle. Là, c'est juste une petite tente qui est placée hors du camp. Donc ce n'est pas le tabernacle qui est au centre du camp, c'est un tabernacle, une petite tente qui est à l'extérieur, et Moïse va parler avec Dieu. C'est là où il va intercéder, c'est là où il va recevoir des instructions, et c'est là où il prépare en fin de compte le projet du peuple avec toute la construction du tabernacle qui va venir. Alors on va lire ce petit passage, je vous ai fait une large introduction, mais c'est important de le situer. Exode 33, versets 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ok ? Et ensuite, il va remonter sur la montagne. Étonnant cette histoire. On imagine ce Moïse qui traverse tout le camp et tous les Israélites sortent de leur tente et ils voient Moïse qui rentre dans la petite tente qui est à l'extérieur. Et au moment où il rentre, il y a la nuée qui descend sur la tente. Donc c'est vraiment la tente de la rencontre. Il va rencontrer Dieu. Et tous les Israélites devant leur propre tente se mettent à adorer parce qu'ils voient clairement la présence de Dieu. C'est d'ailleurs cette histoire-là dont Paul fait référence dans 2 Corinthiens 3, qui dit, quand il parle de la gloire passagère sur le visage de Moïse, c'est lorsqu'il sortait de cette petite tente, il y avait encore la gloire de la présence de Dieu, et du coup il mettait un voile, c'était pas un masque, il mettait un voile pour qu'on ne voit pas cette gloire passagère s'éteindre. Donc c'est la référence que Paul prend pour nous parler de la gloire permanente que nous avons dans la Nouvelle Alliance. Mais donc c'est vraiment un épisode important et spécifique. Et la clé de cet épisode, c'est quand même ce qui nous est dit de la relation entre Moïse et Dieu. On relit ce petit verset. L'Éternel, verset 11, parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Vous savez, il y a un principe dans la parole de Dieu qui nous dit « Nul ne peut voir Dieu et vivre. Nul ne peut être en présence de Dieu face à face et rester vivant. » On l'a chanté, Dieu est un feu dévorant. Et là, il n'y a pas la notion de la grâce, il n'y a pas la notion du sang de Jésus. Donc Moïse, c'est Moïse, quoi. Et il rentre dans la présence du Dieu vivant, trois fois saint, et il le voit face à face. Il parle avec lui comme un homme parle avec son ami. Je crois que Moïse, on peut le dire, est certainement le plus grand des prophètes. Il y a quelque chose dans la vie de Moïse qui nous dépasse totalement. Dieu l'a choisi et lui a permis d'entrer dans sa présence pour parler avec lui face à face comme un homme parle avec son ami. J'ai un verset qui va dans ce sens-là, qui se trouve dans Deutéronome 34, 10, on va juste le lire. C'est à la mort de Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte. Il n'a plus paru de prophète semblable à Moïse, parce que Moïse connaissait l'Éternel face à face. Face à face. On est dans cette petite tente, mais ce qui est important, ce n'est pas la tente. Ce qui est important, c'est la relation. Et la relation que Moïse a avec Dieu est comparable à une relation d'un ami avec son ami. Et moi, ça m'a toujours percuté, ça. Je me dis, on peut devenir ami de Dieu. On peut devenir ami de Dieu. Un ami, quand même, c'est quelqu'un avec qui tu es d'égal à égal. Sinon, ce n'est pas un ami. Si le gars il est au-dessus de toi et qu'il te domine, on n'est pas dans une amitié. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas au-dessus de Moïse, bien sûr. Mais ça veut dire que Dieu s'abaisse au niveau de Moïse pour être dans une relation d'amitié. Où ils peuvent tout se dire. Tu peux tout dire à un ami. Tes malheurs, tes péchés, tes erreurs, tes joies, tes questions, tu dis tout à un ami. Et Moïse et Dieu parlent ensemble comme des amis. D'ailleurs, Dieu lui-même, parfois, il dit à Moïse, écoute, j'en ai marre de ce peuple, fais quelque chose, retiens-moi parce que je vais les détruire. Vous voyez, on est dans du dialogue comme ça, c'est pas un Dieu lointain, les 10 commandements, on est dans du dialogue. Et la relation que Dieu va avoir avec chacun d'entre nous dans cette maison, c'est un dialogue d'amitié. C'est un dialogue d'amitié. Et ce dialogue d'amitié, Moïse l'avait et il voyait Dieu face à face. Cette notion de face à face, c'est lié à une relation d'adoration. D'ailleurs, dans ce texte de 2 Corinthiens 3 que je vous ai cité tout à l'heure, Paul parle de contempler comme dans un miroir le visage du Seigneur, donc face à face, et d'être transformé à son image. On est dans cette relation où il n'y a plus rien qui nous sépare de lui, il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de voile, on peut le contempler. Et l'adoration, c'est adorer celui que nous connaissons. Donc il y a une connaissance de Dieu dans ce face à face. Je le regarde, il me regarde. Les yeux de Jésus, on a chanté ça tout à l'heure, il y a les yeux de feu de Jésus, mais il y a aussi les yeux d'amour de Jésus. Il y a le regarder face à face. Quand vous aimez quelqu'un, pour ceux qui sont amoureux, fiancés ou mariés, quand on se regarde face à face, il y a quelque chose qui est là, qui laisse communiquer la relation. Il n'y a même pas besoin de parler parfois. Quand on se connaît depuis des années, juste un regard suffit pour savoir comment l'autre va ou savoir ce que l'autre pense. Parce qu'on se connaît. Mais avec Dieu, c'est ça. C'est ce regard face à face. C'est ses yeux dans les yeux. Et toujours dans notre histoire d'Exode 33, il nous est dit que lorsque Moïse sortait de la tente, il y avait quelqu'un qui restait dans la tente. Et ce quelqu'un, c'est Josué. C'est étonnant cette histoire, parce qu'on voit Moïse qui rentre dans la tente, tout le monde qui se prosterne, enfin c'est Hollywood un peu. En fin de compte, il y avait Josué qui marchait toujours avec Moïse. Hein, Josué, c'était le serviteur de Moïse. Beaucoup plus jeune que lui, c'était son fils spirituel. Et Josué, il suivait Moïse et il rentrait dans la tente de la rencontre. Là où il y avait la gloire de Dieu. Peut-être il se mettait dans un petit coin, et il devait être très discret, mais il était quand même dans la gloire de Dieu, ce Josué. Et il aimait tellement ce lieu que lorsque Moïse sortait, lui, il restait. Il en voulait encore, il en voulait davantage. Il voulait plus de la présence de Dieu, plus de ce face-à-face. Et j'imagine que lorsque Josué se retrouvait tout seul dans la présence de Dieu, il y avait aussi de la relation. Dieu ne se disait pas, oh, c'est que Josué, on laisse tomber celui-là, je m'en vais à mes affaires, je ne sais pas lesquelles. Non, il continuait à être dans cette relation. Josué bénéficiait de la relation que Moïse avait avec l'Éternel. Et il y avait une amitié certainement avec Josué. Vous savez, le mot « face » en hébreu est toujours au pluriel. C'est un mot hébreu, je l'ai noté quelque part, « panim » ou « panaim ». « Im », c'est du pluriel. Ça n'existe pas au singulier. On le prononce au singulier, « face à face », mais dans l'hébreu originel, c'est « les faces de Dieu » avec les faces de Moïse. Alors, on peut comprendre ça de différentes manières. Les faces de Moïse, ça peut être les différentes dimensions de sa personnalité, son âme, son esprit, son corps, peu importe. Les faces de Dieu, c'est toutes les attributs de Dieu. Mais on peut aussi comprendre ça dans la dimension relationnelle, personnelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Dieu, il y a la relation entre le Père et le Fils. Les faces de Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Mais là, je m'intéresse à cette relation père-fils. Parce que Moïse, lui, il entrait avec Josué, son fils spirituel. Et il se contemplait face à face, père-fils du ciel, père-fils de la terre. Et ils sont quatre, en fin de compte, dans cette tente. Ils ne sont pas deux, ils sont quatre. Le Père, le Fils, Moïse, Josué, face à face, dans une relation d'amitié. Et je reviens à ma maison. La maison de Dieu est une maison de relation. La maison de Dieu, c'est le lieu où Dieu veut être avec ses enfants, avec ses fils et ses filles. Il a son fils premier-né, mais il a un plan et il a un projet extraordinaire. C'est que ce fils soit le premier d'un grand nombre de frères. d'un grand nombre de frères et de sœurs, mais d'un grand nombre de fils et de filles, d'enfants. Et que dans sa maison, il y ait cette relation multipliée par X. La relation père-fils est appelée à se reproduire. À se reproduire. C'est-à-dire que Dieu ne reproduit pas que des fils, il reproduit aussi des pères. Et son but dans l'Église, et son but dans cette nouvelle humanité, c'est qu'il y ait de l'intergénérationnel dans sa présence, des pères et des fils, qui le contemplent ensemble, qui contemplent le père et le fils dans leur relation, pour vivre ce même type de relation dans la présence du Père. On va aller un peu plus loin dans cette histoire de père et de fils. Vous savez, Jésus, il est la clé de toute l'histoire. Dans la maison de Dieu, Jésus, il est partout, mais il est premièrement la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi vivra. Il trouvera de verts pâturages. Jésus est la porte de la maison. Il n'y a pas d'autre chemin pour entrer dans la maison du Père que de passer par Jésus, que de passer par le sang de Jésus. Et on connaît bien ce message, c'est le message de la grâce. Donc Moïse, lui, il préfigure dans cette histoire ce qui va se passer pour nous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à l'œuvre de Jésus, entrer librement dans la présence du Père pour trouver le repos, pour trouver la communion, pour trouver l'amitié, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus, il avait en vue chacun d'entre nous et tous les hommes et les femmes qu'il veut faire entrer dans la maison du Père. Lorsqu'il est mort sur la croix, c'est ça qu'il avait en vue. Il n'est pas mort sur la croix juste pour faire un sacrifice agréable à Dieu. Il est mort pour la croix pour nous sauver, on est bien d'accord. Et pour nous sauver afin de nous amener dans la présence du Père. Vous savez que le Père, depuis le départ, n'a qu'un désir, n'a qu'une attente, c'est être dans notre présence. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, avant la chute, le Père venait parler avec Adam et Ève tous les jours. Se rencontrer avec eux. Il n'y avait pas d'histoire de voile, il n'y avait pas d'histoire de péché, il n'y avait que de la relation. Donc lorsque le péché est entré dans le monde, la relation a été brisée, le désir de Dieu, depuis ce jour-là, c'est de retrouver cette relation et même de l'approfondir. Le désir du Père, c'est d'être en communion avec l'homme, avec l'humanité qu'il a créée à son image. Et lorsque Jésus meurt sur la croix et qui dit « tout est accompli », en fin de compte, il proclame « ça y est, Père, tu peux retrouver la relation perdue, tu peux retrouver la communion perdue avec l'homme que tu as créé ». C'est même pas juste l'Église, excusez-moi, c'est toute l'humanité, parce que Jésus est mort pour l'humanité entière. Vous allez me dire « mais certains seront perdus ». Oui, bien sûr, mais le projet, l'objectif de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut qu'aucun ne périsse. Il veut que tous reviennent à la maison. Il est absolument engagé envers tous les hommes. Et la croix est là pour nous le prouver. Et on a toujours dans notre petite pensée, Seigneur, il y en a que t'aimes plus que d'autres, puisqu'il y en a qui sont sauvés et d'autres qui ne sont pas sauvés. Ça, c'est le mystère, ça. C'est le mystère de l'élection, de la grâce, tout ce que vous voulez. Mais le cœur du Père, c'est de vouloir ramener dans sa maison tous ses enfants, toutes les nations. Et vous savez, un jour, les nations reviendront à Jérusalem pour adorer le roi. Donc, en dehors même de cette histoire d'Église, il y a un projet de Dieu pour les nations. Il y a un projet de Dieu pour toutes les cultures, pour toutes les races, pour tous les hommes. Il y a ce qu'on appelle la rédemption des nations. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a cet arbre qui pousse le long du fleuve, tous ces arbres dont les feuilles servent à la guérison des nations. Et du coup, on élargit. C'est plus juste moi et Dieu, Dieu et moi. c'est plus juste moi et ma petite église, même si je l'aime bien. C'est plus Dieu, moi et tous les chrétiens. Non, c'est Dieu, moi et l'humanité. Pourquoi je parle de ça ? Parce que je crois que c'est important en ce moment qu'on réalise que nous sommes aussi frères en humanité avec tous les hommes. Il y a de plus en plus de séparation, de division, de haine, de méchanceté dans ce monde. Et nous sommes tous nés d'un même sang. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chinois, que tu sois américain, on est tous issus d'un même sang. Et c'est le sang d'Adam et Ève, de la première humanité. Donc on est frères en humanité. Ce qui nous sépare des gens de ce monde, c'est le fait que Jésus nous ait pardonné nos péchés et qu'il nous a purifiés. Mais on est de la même nature qu'eux. On est en train de changer de nature par la grâce de Dieu et vraiment pas parce qu'on est meilleur que les autres. Mais on est de la même humanité. Je voudrais qu'on lise Ésaïe 25. Versets 6 à 8. Par rapport justement à ce regard de Dieu sur les nations et sur le monde. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, la montagne de Sion, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. C'est juste merveilleux ces textes. C'est juste merveilleux. Et c'est un texte qui nous parle d'un temps à venir, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour l'instant, la mort existe toujours, et il y a toujours un voile de ténèbres sur la terre. Mais Dieu prépare un jour où il va anéantir ce voile, cette couverture qui couvre les nations. Et toutes les nations marcheront à la lumière de l'Éternel. On n'est pas là dans la notion de l'Église. On est là dans la notion du retour en gloire de Jésus pour régner sur la terre. Et dans ce moment-là, il viendra et il anéantira la mort, il anéantira la puissance du diable et les nations pourront revenir dans leur relation première avec Dieu. L'Église sera glorifiée, l'Église sera appelée à régner avec Christ, mais les nations de la terre marcheront à sa lumière. Donc il y a de l'espérance pour les nations. Si Jésus revient aujourd'hui, il y a de l'espérance pour les nations demain. Une espérance extraordinaire. Pour tous ceux qui sont vivants le jour de son retour, il y a une espérance extraordinaire. On ne comprend pas tout bien dans ces notions de la fin des temps. On n'a pas toutes les réponses, et heureusement, parce qu'il y a du mystère et parce que ça dépasse notre compréhension, notre intelligence. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut manifester aux nations sa bonté, sa grâce, sa justice. Le psaume 2, vous connaissez le psaume 2, quand Jésus dit, quand Dieu dit « Demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession ». C'est Dieu qui parle au Messie. Et Jésus va venir pour libérer les nations du joug des ténèbres et il va prendre soin des nations, comme un berger. Waouh ! Alors vous me dites, mais tu as changé de sujet ? Non, non, je n'ai pas changé de sujet. Je suis dans mon sujet. Parce que lorsqu'on parle de la maison de Dieu, lorsqu'on parle de l'intimité de Dieu, lorsqu'on parle de cette amitié que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous, on parle aussi du regard de Dieu sur tous les êtres humains qui nous entourent, qui est un regard extraordinaire de grâce et d'amour. Et il veut les attirer dans sa maison. Il veut les attirer dans sa maison comme le fils prodigue qui est parti dilapider son héritage et que Dieu attend, enfin le père de la parabole attend. Il l'attend et il l'attend jusqu'à ce qu'il revienne. Et Dieu attend les nations. Dieu attend chacun d'entre nous. Et il l'attend chacun sur cette terre, il l'attend dans sa maison. Dans sa maison. Et pourquoi ça nous concerne ? Parce que sur terre, aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est l'Église. Il n'y a pas d'autre maison de Dieu que l'Église. Et l'Église au sens spirituel, mais aussi au sens physique, matériel. Non pas le bâtiment, mais nos corps, nos vies, nos personnes. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la tente de la rencontre. Nous sommes la tente de la rencontre. Comment est-ce qu'un homme ou une femme qui ne connaît pas le Seigneur, de quelque nation que ce soit, pourra rencontrer le Dieu trois fois saint, si ce n'est dans l'Église ? Et quand je dis dans l'Église, je ne parle pas du bâtiment. Il faut qu'on se déchire ce truc-là une fois pour toutes. C'est dans la relation entre toi et ton frère. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans cette relation d'amitié avec le Père et ensemble, fils et filles, dans l'intergénérationnel, il y a la révélation de Dieu pour les nations. Il y a la révélation de qui est Dieu pour tous les hommes. Il y a une maison d'intimité, une maison d'amitié, une maison de fraternité ouverte pour tous les hommes. Et pour toutes les nations. Romains 8, 29. Je vais bientôt terminer avec une ou deux pensées encore. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs, bien sûr, mais on comprend bien l'idée. Et du coup, Jésus attend dans la maison du Père des hommes et des femmes qui vont lui ressembler, qui vont être comme lui, qui vont être ses frères et ses sœurs, avec qui il est d'un pied d'égalité. C'est un mystère, ça aussi. Mais dans la maison de Dieu, nous sommes pour l'instant enfants de Dieu, mais un jour nous deviendrons semblables à Jésus. Waouh! Chaque fois que je dis ça, il y a quelque chose qui joue plus dans ma tête. Un jour, tu deviendras comme Jésus. C'est-à-dire que la relation que le Père a avec son Fils, il pourra l'avoir avec toi, aussi belle, aussi pure. Ça ne veut pas dire qu'on sera Dieu. Il y en a qui vont jusqu'à dire cela et du coup ils sortent de la doctrine chrétienne. On ne deviendra pas Dieu. Dieu reste Dieu et nous, on reste des créatures de Dieu. Mais quand même, au niveau de la qualité de notre identité, de notre caractère, de notre perfection, on sera semblable à Jésus. Quoi. Semblable à Jésus. Ça veut dire qu'au repas des noces, tu n'auras pas besoin d'être assis à côté de Jésus parce que tu auras des Jésus partout autour de toi, au niveau de la qualité. Vous voyez, contrôle qualité. Et contrôle qualité, ben, ils seront tous semblable à Jésus au repas des noces. Ça y est, il y en a qui disent, ouais, Seigneur, je voudrais être assis à côté de toi lorsque tu viendras dans ton règne. Bah, il n'y a que deux places. Hein. Alors si on est quelques milliards, ou je ne sais pas, millions, je ne sais pas combien on va être, on va se battre pour être à côté de Jésus. Mais on sera tous semblables à Jésus. On sera la nouvelle humanité. Et Jésus se réjouit de cela. Il se réjouit de cela parce qu'il a accompli ce que le Père désirait depuis toujours. Avoir des fils et des filles en grand nombre. Et quand je vous dis que dans la maison de Dieu, il y a un père et un fils, on parle là aussi de la notion de l'héritage. S'il y a juste un père et qu'il n'y a pas d'héritage, alors ce qui appartient au père, et il n'y a que le père qui peut en jouir. Mais à partir du moment où il y a un fils, alors le père a quelqu'un à qui donner l'héritage. Et principalement le fils aîné. Donc Jésus a été engendré, il a été engendré pour devenir le fils aîné, le premier né de la nouvelle humanité, de la nouvelle création. Et Dieu le Père a fait cela pour pouvoir donner son héritage à son fils. C'est juste énorme ça. Et l'héritage que Jésus reçoit, c'est tout. Tout ce qui appartient au Père. Et c'est ça la parabole du fils prodigue aussi. C'est la question de l'héritage, vous savez. Il y en a un qui l'a dilapidé et il y a l'autre qui n'a pas su en jouir. Donc ils ont tous les deux tout faux. Mais le fils unique de Dieu, lui, il a reçu tout l'héritage de la part du Père. Sauf qu'il est le premier-né d'un grand nombre. Et il est loin d'être égoïste. Il fait de nous des co-héritiers. Des co-héritiers de Christ. Et c'est pour ça que dans la maison de Dieu, il y a un fils qui hérite et qui partage l'héritage avec tous les autres. Ça veut dire que nous sommes hyper riches, quoi. Le royaume de Dieu est pour nous. Les bénédictions spirituelles en Christ sont pour nous. Tout ce qui nous est promis est à nous. Même si pour l'instant nous n'avons que les arts, que les prémices. Mais les prémices, notamment le Saint-Esprit, sont là pour nous attester qu'un jour nous aurons tout l'héritage. La plénitude de l'héritage du royaume est pour nous en Christ. Ça, c'est Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais sur la terre, dans l'Église, il doit y avoir le même principe, c'est-à-dire des pères et des fils, et des fils de fils. Jusqu'à la 3 générations, 4 générations. Après, on ne vit pas assez vieux pour en avoir 5. Mais c'est-à-dire que Dieu s'intéresse à la transmission de l'héritage de père vers les fils. Et la question que je voudrais te poser à la fin de ce message, et c'est une question peut-être à laquelle tu ne t'attendais pas, est-ce que tu as des fils et des filles à qui donner ton héritage? Et je parle pas de choses matérielles et de fils et filles selon la chair, ça c'est une réalité qui est juste et qui est très bonne, hein. Si tu as une maison, tes fils et tes filles hériteront. Non, je parle spirituellement. Je parle spirituellement. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, est-ce que tu amènes des gens avec toi? Et aucune pression, condamnation ou quoi que ce soit. Mais je crois qu'il y a une urgence de la part de Dieu de trouver cette filiation. C'est la notion des disciples, de former des disciples. C'est la notion de se multiplier. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne dans la maison de Dieu que pour nous-mêmes. C'est la notion aussi d'aller chercher ceux de l'extérieur, l'évangélisation. C'est la notion, en tout cas, qu'il y a un héritage tellement merveilleux que je ne peux pas le garder pour moi. Et ma relation avec Dieu n'est pas une relation égocentrique, loin de là. Elle ne peut pas être que centrée sur mes problèmes et mes besoins, même si Dieu s'occupe de mes problèmes et de mes besoins. La relation avec Dieu et la connaissance de Dieu, elle nous oblige, entre guillemets, à être tournée vers les autres, à être tournée vers les frères et sœurs, vers nos disciples, vers les jeunes générations, mais aussi vers ceux qui sont à l'extérieur, pour qu'ils entrent dans la maison de Dieu. Et s'ils ne peuvent pas entrer dans la maison de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent y entrer au travers de ton intercession. Quand tu intercèdes, tu présentes des gens devant Dieu, c'est, en fin de compte, tu les commences à les faire entrer dans sa présence. Tu cites des noms dans la présence de Dieu afin qu'ils se souviennent d'eux et qu'ils aillent les chercher. Parce que nous, on ne peut pas les sauver, mais lui, il peut le faire. Donc, vraiment, la maison de Dieu, c'est un lieu relationnel, c'est un lieu fraternel, c'est un lieu pour nos fils et nos filles, c'est un lieu pour nos disciples, c'est un lieu pour les nations et pour tous ceux qui sont autour de nous. Et le Seigneur nous invite dans cette amitié à penser aux autres, à être tourné vers ceux qui sont sur son cœur. Quand tu touches le cœur de Dieu, tu vas trouver des personnes. Sur le cœur de Dieu, il y a des personnes. Et je termine avec ça. On va prier tous ensemble et juste demander au Seigneur de nous amener dans sa présence encore, dans sa maison, mais de réaliser qu'il y a un héritage à partager. Seigneur, nous voulons juste nous tourner vers toi ensemble à la fin de ce message, te remercier pour l'accès que tu as ouvert dans ta maison pour chacun d'entre nous, pour cette relation d'amitié, pour cette relation de face à face avec le Père et avec le Fils. Et Seigneur, je prie vraiment que tu nous apprennes à être ensemble dans ta présence, à venir à deux, à trois, à quatre, à plus, dans l'intimité de ta présence, à y apporter nos fils et nos filles, à y apporter nos disciples, à y apporter ceux qui ne te connaissent pas et que tu veux toucher dans ton amour infini. Seigneur, ouvre nos yeux sur la réalité de cette maison de relation dans ta présence. Ouvre nos yeux aussi sur cet héritage magnifique qui commence dès aujourd'hui par les arts de l'esprit. Et Seigneur, donne-nous de vivre avec, avec grâce, Seigneur, dans ces temps difficiles, d'y entrer et d'y faire entrer les autres dans cet héritage magnifique, dans cet héritage de gloire, dans cet héritage de salut. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour qui est tellement, tellement une sécurité pour nous et pour le monde. Merci pour l'espérance pour toutes les nations de la terre. Amen. Merci Seigneur.